Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Grâce Amzati, voici le sommaire. 6 personnes sont mortes de faim à l'espace d'un mois dans le site des déplacés de Roussaye 3 au nord Kivu. Le président de ce nouveau site, qui reçoit depuis 3 mois plus de 23 000 ménages déplacés, lance un SOS. Les agents et fonctionnaires des territoires de Bikoro, Bolomba et Ingende dans la province de l'Équateur font des manifestations en Bandaka pour exiger le paiement de 3 mois de leur salaire. Ce vendredi, pour la deuxième journée consécutive, ils ont brûlé des pneus devant la Caritas Mbandaka Bikoro qui les paye. Aliona Sinenko, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge CICR à Goma, est notre invitée ce matin. Elle nous parle de l'intervention de cette structure dans la prise en charge des personnes blessées par les derniers bombardements dans les sites près de Goma. Voilà tout pour les titres. D'abord cette information, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est arrivé ce vendredi dans la ville d'Oyo, située à 400 km de Brazzaville, en République du Congo pour une visite de travail. Un tête-à-tête a eu lieu entre les présidents Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso, c'est ce qu'indique le compte X de la présidence de la RDC. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nord Kivu, au moins 6 personnes sont mortes de faim à l'espace d'un mois dans les sites des déplacés de Roussaye 3. Ces nouveaux sites reçoivent depuis 3 mois plus de 23 000 ménages déplacés. Le président de ces sites appelle à l'aide pour sauver la vie de ces personnes. Joseph Kamara explique les difficultés auxquelles font face les déplacés du site de Roussaye 3 au micro de Rosalie Zawadi.
Nous avons besoin de nourriture parce qu'il y a beaucoup ici déjà qui meurent ici. Il y a 6 personnes qui sont mortes à cause de la famine.
En combien de temps?
6 personnes sont mortes au moins dans un mois. Même ici à l'MCF, nous sommes ici proches ici. Il y a beaucoup qui sont enregistrés là-bas toujours pour la malnutrition parce que depuis tout ce temps ici, nous n'avons pas eu vraiment d'assistance. Nous vivons toujours comme ça. Il y a aussi les problèmes de protection parce qu'il y a toujours des crépitements, des balles presque tous les jours. Il y a encore une autre difficulté ici. C'est maintenant, on nous construit ici des toilettes. Nous avons au moins 6 toilettes déjà. Pour 23 000 ménages, vous voyez, ce n'est pas vraiment assez. Donc, nous avons encore beaucoup de difficultés d'abord sur le plan des toilettes. En plus des douches, nous avons 4 aussi. Donc, le besoin est toujours là. Je peux vraiment dire que nous sommes vraiment dans l'urgence. Et tout partenaire de bonne foi qui peut venir ici, nous aider vraiment, il est le bienvenu, car vraiment les difficultés sont énormes.
Joseph Kamara demande aux autorités de faire de leur mieux pour mettre fin à la guerre afin que ces ménages rentrent chez eux et se prennent en charge comme ils l'ont toujours fait grâce à l'agriculture et à l'élevage. Restons au nord Kivu. À Goma, les habitants des quartiers Ndosho et Mugunga dans la commune de Karisimbi ont connu une nuit perturbée. Des coups de feu nourris ont été entendus d'une heure à trois heures de ce vendredi. Des individus portant des armes se sont introduits dans des maisons de particuliers. Il est fait état du vol de plusieurs biens de valeur, d'argent, des téléphones portables et autres. À Mugunga, une dame a été touchée et blessée par l'une des balles tirées par les bandits. Elle est admise à l'hôpital Sebseya de Ndosho. Ces informations sont confirmées par le président de la société civile de la commune de Karisimbi. On écoute Christian Kalamo dans ses propos recueillis par Chris Mukand.
Il y a eu crépitement de balles dans tous les sens. Et tout ça, c'était dû à des bandits armés. Et voilà qu'ils avaient déjà entré dans quelques maisons, au moins 5 maisons, d'où ils ont emporté beaucoup de biens de valeur, tabassé les gens. Et il y a même une femme qui a été touchée par balle. Elle est à présent internée à l'hôpital Sebekandosho. Dans cette même semaine passée ici, les bandits sont venus au niveau du quartier Mugunga. Ils ont cambriolé les maisons. Ils ont tabassé les gens et ils ont même violé des filles, une fille de 12 ans et une fille de 14 ans. Nous, on ne peut pas savoir qui fait quoi dans notre quartier Mugunga parce qu'il y a beaucoup de militaires là-bas. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire encore appel à l'autorité urbaine de venir notre quartier Mugunga et quartier Ndosho en aide, de remonter les stratégies de faire la sécurité de la population parce que ces derniers temps, même l'ennemi utilise des armes lourdes parce que ce qu'on attendait hier vraiment, c'était de nouveau dans la ville de Goma. La population de continuer à dénoncer partout où il y a des suspects pour que chacun puisse contribuer à l'amélioration de la sécurité dans le quartier Mugunga et Ndosho en particulier.
Notez toutefois que dans cette province du Nord Kivu, les FRDC et les groupes armés ainsi que leurs alliés continuent à mettre la pression sur les rebelles du M23 afin de les déloger des collines stratégiques qu'ils occupent dans le Masisi. Nos sources à Minova renseignent que hier vendredi, l'armée a largué des bombes sur les positions ennemies vers les collines de Ngungu à partir de Minova. Des détonations se sont fait entendre dans la cité où les activités se déroulent timidement. Pour l'instant, aucune réplique au bombardement n'est enregistrée dans cette cité à la limite entre les territoires des Calais et des Masisi. Cependant, sur l'axe Sake, on parle des deux bombes qui sont tombées le matin à différents endroits sans faire de victimes. Ce, alors qu'une accalmie est observée sur cet axe depuis jeudi. Nord Kivu toujours. La notabilité de Walikale plaide pour l'ouverture dans le chef-lieu du territoire d'un centre d'inscription pour les jeunes dans l'armée. En effet, le commandement militaire a, dans un communiqué officiel lancé le 29 avril dernier, l'inscription volontaire des jeunes congolais à intégrer les FRDC. Le député provincial honoraire de Walikale dit avoir constaté avec regret, dit-il, que le territoire de Walikale n'a pas été retenu sur la liste des centres d'inscription et des dépôts de candidature des dossiers. Pour Prince Kiangi, cette omission pourrait être considérée comme une discrimination ou exclusion des jeunes de ces territoires. Dans une correspondance adressée au commandant de la 34e région militaire, il sollicite l'ouverture d'un centre dans les Walikale pour permettre aux jeunes de s'inscrire. On écoute Prince Kiangi au micro de Denis Lukeso.
Il n'y a donc aucun centre prévu pour le territoire de Walikale. Or, nous savons que Walikale est fortement enclavé. Des jeunes ne sauraient quitter Walikale, arriver jusqu'à Masisi pour se faire inscrire. Non plus, ils ne sauront pas aller jusqu'à Goma, que donc ils n'ont pas la possibilité de se faire inscrire. Or, nous savons tous que Walikale est plein de jeunes vaillants, combattants, disposés à pouvoir servir sous les drapeaux. Voilà pourquoi nous nous sommes adressés au commandant de la 34e région militaire pour demander à celui-ci de bien vouloir instaurer ou instituer un autre centre dans le territoire de Walikale, particulièrement au chef-lieu, pour permettre à ces jeunes gens qui se trouvent être dans le territoire de Walikale à se faire inscrire, à déposer leur dossier pour également intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc c'est la demande formulée et après nous avons été contactés par monsieur le commandant avec qui on a eu des échanges fructueux et finalement nous sommes arrivés au niveau où il accepte de bien vouloir entrer en contact avec la hiérarchie pour voir dans quelle mesure on peut aussi installer un centre d'inscription dans le territoire de Walikale pour rapprocher ce processus des jeunes gens qui se trouvent être dans le territoire de Walikale. Et donc c'est avec grande satisfaction que nous nous exprimons ainsi parce que désormais d'ici là, nous espérons bien qu'il y aura un centre dans le territoire de Walikale.
Pendant ce temps, en Ituri, le rétablissement de l'autorité de l'État dans plusieurs entités des territoires d'Irumu et de Djougou, mais aussi l'implication des groupes armés au processus de paix font partie des succès de l'État de siège, 3 ans après son instauration par le chef de l'État. Déclaration faite vendredi par le gouverneur au cours d'un point de presse sur son bilan à la tête de cette province. Toutefois, il reconnaît que de nombreux défis restent à relever pour le rétablissement d'une paix durable dans cette région. Marcel Kizabiamungo.
Des avancées significatives de la situation sécuritaire sont signalées depuis l'instauration de l'état de siège en mai 2021, déclare le général Johnny Luboya. Il cite par exemple le rétablissement de l'autorité de l'État dans le site d'Irumu vers Marabo, Nyakunde, Bogamwanga et dans d'autres entités où les groupes armés régnaient en roi. Ce succès, selon Luboya, est dû aux opérations militaires engagées par les FRDC en appui avec les casques bleus de la MONUSCO.
Avec la MONUSCO, nous faisons tout. Nous sommes sur l'ARN pour pacifier cette RN4. Nous avons eu autant d'opérations avec la MONUSCO. Ici, nous sommes en train de beaucoup faire avec nos partenaires.
Les gouverneurs soulignent également l'importance de l'apport non militaire qui a permis aux groupes armés de s'introduire dans les processus de paix, lesquels a abouti à des actes d'engagement, des cessations d'hostilité. Ils déplorent cependant quelques cas de dérapage de certains miliciens.
Maintenant, il faut que les Ituriens arrivent à se pardonner. Oui, on s'est fait beaucoup de mal. Maintenant, nous devons aller au-delà de ces tragédies-là.
Les chefs de l'exécutif provincial reconnaissent toutefois qu'il y a encore des pas à franchir pour une paix durable. Il exhorte les fils et les filles de l'Ituri à se pardonner et à se réconcilier en vue de mettre fin au cycle des violences dans cette province. Bounia, Martial Kizapiamongo, Radio Okapi.
On enchaîne avec la province du Kwilu où la communauté musulmane Ahmadiyya basée à Bandounouville a assisté jeudi les déplacés de Kwamout vivant dans cette ville en vivre et non vivre. Parmi les bien leur apporter. On peut citer la farine, les maniocs, des maïs, l'huile, le savon lessive et bien d'autres. Selon le missionnaire Fanny Suleiman Malik, il s'agit d'une action de solidarité en faveur des nécessiteux dans le cadre de la clôture du mois de Ramadan, comme le recommande le Saint-Coran. On écoute le missionnaire Fanny Suleiman Malik qui explique au micro d'Irène Bouma.
Selon la recommandation de notre bien-aimé Allah, nous sommes venus aider nos frères dans les déplacés des territoires de Kwamuntu. Nous avons apporté les vivres parce qu'ils sont dans les besoins, quoi. Comme nous savons très bien que ce sont des réfugiés. Nous avons apporté 5 sacs de foufou, 3 sacs de maïs avec les sacs de sel, un bidon d'huile, les tomates, oui, avec un sac et demi de savon poussière. C'est les petites contributions des membres selon notre système de la communauté qui contribue. Nous faisons ça en suivant les enseignements du Saint-Coran et notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit d'aider les nécessités, les veuves, tout ça. C'est pour cela que nous avons fait ça. Et surtout en suivant notre slogan qui dit « Amour pour tous et haine pour personne ». Et surtout en voyant nos frères, les déplacés, ils sont en difficulté, ils ont tout perdu, vous voyez, ils manquent à manger, quoi. C'est pour cela que nous sommes venus les aider à l'occasion de notre clôture des mois de Ramadan. Bon, le message que je peux donner à nos frères déplacés, en tant que missionnaires, ils doivent aussi beaucoup prier, penser à Dieu, donc il ne faut pas qu'ils désespèrent, Inch'Allah.
Content d'avoir reçu cette dotation, les déplacés ont remercié la communauté Ahmadiyya pour ces gestes qui, selon eux, vient soulager même pour quelques jours leur souffrance au site d'hébergement des Malibu. Comme annoncé au sommaire, dans la province de l'Équateur, manifestation ce vendredi à Mbandaka des agents et fonctionnaires des territoires de Bikoro, Bolomba et Ingende. Pour la deuxième journée consécutive, ils ont brûlé des pneus devant la Caritas Mbandaka Bikoro qui les paye. Ils exigent le paiement de 3 mois de leur salaire, soit de février, mars et avril 2024. Leurs conditions de vie deviennent insoutenables, indiquent-ils. C'est pourquoi ils en appellent à l'implication des autorités nationales, particulièrement du chef de l'État. Un des manifestants, Ivan Pian Pia, s'exprime au micro de Paul Richard Malengela.
On a fait maintenant 3 mois de l'impayement, depuis le mois de février, mars et avril. Et nous sommes venus à l'agence Caritas pour demander nos arriérés de la paye. Et M. Labbé qui nous a informé que même vous brûlez des pneus, aucune réaction qui doit arriver ici. Et nous demandons l'implication du gouvernement central à cette affaire. Parce que maintenant ça fait 3 mois, depuis le mois de février, mars et avril, impayé. Maintenant, une situation précaire. On a intégré au système de l'embête qui est illimité. Maintenant, même la dissertation, nos filles et nos fils n'ont pas participé à cause de l'impayement. Et nous demandons l'implication du gouvernement central. Parce qu'au niveau du gouvernement provincial, il y a la collaboration entre l'abbé coordonnateur Jean-Louis Iyeli avec l'exécutif provincial pour détourner nos fonds. Et nous demandons l'implication du gouvernement central. D'abord, à l'ordre suprême de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, ainsi que l'ODG qui puisse impliquer à cette affaire.
Interrogé, l'abbé coordinateur de la Caritas Mbandaka Bikoro explique que son bureau n'y est pour rien. Jusqu'à présent, il n'a reçu que le virement du salaire de février et entend faire le retrait bientôt. Quant aux 2 autres salaires, ils doivent patienter, conclut l'abbé Louis Iyeli. Parlons à présent des contentieux des résultats provisoires du scrutin au gouvernorat de Kinshasa. Le verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est tombé hier soir. Daniel Bumba vient d'être confirmé gouverneur de la ville-province de Kinshasa à l'issue d'un contentieux des résultats ayant opposé le candidat gouverneur Vidi Etchimanga au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya. Le candidat malheureux conteste l'élection de Bumba et accuse le secrétaire général de corruption et fraude présumée dans l'opération des votes. Mais l'arrêt de la cour rejette ces accusations. Et puis, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, reporte au 23 mai 2024 à 16h30, heure locale, la période des dépôts et des traitements des dossiers de candidature pour les élections des conseillers urbains, bourgmestres et bourgmestres adjoints. Ces opérations étaient initialement prévues le 9 mai 2024. Dans un communiqué, la CENI invite ainsi les candidats indépendants, les partis et regroupements politiques à s'assurer que les différents formulaires et toutes les pièces à joindre à la déclaration de candidature du mois signés ont été bel et bien déposés au bureau des candidatures BRTC.
Actualité internationale.
Le secrétaire général des Nations Unies a rencontré ce vendredi Dr. William Ruto, président de la République du Kenya. Le secrétaire général a exprimé ses condoléances pour les pertes en vies humaines et les dégâts causés par les récentes inondations. Il a également remercié le président pour le travail du Kenya en accueillant la conférence de la société civile des Nations Unies en 2024. Le secrétaire général a souligné l'importance de la conférence à l'approche du sommet du futur prévu à New York en septembre de cette année. Il a salué le leadership du Kenya dans la mission multinationale de soutien à la sécurité dont Haïti a désespérément besoin. Les deux dirigeants ont également discuté de la situation en matière de paix et de sécurité dans la région de la Corne, de l'Afrique et des Grands Lacs. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré l'importance de Nairobi en tant que siège des Nations Unies et a exprimé sa gratitude au président pour le soutien que les Nations Unies reçoivent du gouvernement kenyan.
L'invité.
Notre invité est Aliona Senenko, porte-parole du CICR à Goma. Elle explique que pour faire face à la situation d'urgence causée par les derniers bombardements dans les sites près de Goma au nord Kivu, le comité international de la Croix-Rouge CICR a dû augmenter sa capacité d'intervention à l'hôpital Sebseya. Cela afin d'assurer une bonne prise en charge aux blessés qui affluent dans cette structure spécialisée en chirurgie de guerre. Sur place, parmi les blessés qui suivent des soins, certains sont déjà stabilisés tandis que d'autres présentent encore des traumatismes. Aliona Sinenko s'entretient avec Sifa Maguru.
Bonjour madame.
Bonjour.
Nous sommes ici à l'hôpital Sebe Kandosho, appuyé par le CICR. Pouvez-vous nous faire un petit état des lieux de la situation des blessés des récents incidents de Lushagala? Combien vous avez reçu? Qu'est-ce que vous faites et quel est l'état des malades?
Donc ici, effectivement, ça fait longtemps qu'on travaille avec l'hôpital d'Ondosho. Nous avons notre équipe chirurgicale qui est placée ici pour traiter les patients blessés par armes, donc ils sont spécialisés en chirurgie de guerre. Et depuis plusieurs mois, ils sont vraiment débordés parce qu'il y a beaucoup de patients. Et malheureusement, ce qu'on voit de plus en plus, et ce dont l'exemple vendredi dernier, c'est que de plus en plus, on voit les femmes et les enfants, les gens qui ont déjà fui le conflit, qui ont tout perdu. Là, on parle vraiment des personnes vulnérables, des plus vulnérables, qui payent encore le prix très lourd de ce conflit. Vendredi dernier, nous avons reçu 27 patients. 26 entre eux, c'était les femmes et les enfants. Beaucoup d'entre eux sont arrivés ici en état très très grave, parce qu'on ne parle pas uniquement des blessures par balle, mais on parle des blessures causées par des engins explosifs. Donc ce sont des blessures très complexes qui font beaucoup de dégâts et qui nécessitent beaucoup de temps pour les traiter.
Et actuellement, comment évoluent ces malades?
Donc il y en a ceux qui évoluent bien. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu une maman avec laquelle j'ai parlé lundi. Elle était très préoccupée parce qu'elle ne pouvait pas sentir ses jambes. Et en fait, quand elle est arrivée ici, et elle sentait pas la partie basse de son corps, donc elle continuait à penser et poser des questions aux infirmiers. Mais est-ce que mes jambes sont là? Est-ce que mes jambes sont là? Donc aujourd'hui, ça fait quand même très plaisir de la voir en train de faire les exercices de kiné et que voilà, elle récupère. Mais ça, c'est un exemple. Il y a d'autres patients qu'on voit qui sont encore dans un état très grave, surtout les enfants. Surtout aussi, ce qu'on voit, c'est l'impact psychologique, parce que les gens sont quand même très très traumatisés par ce qui leur est arrivé.
Est-ce que votre programme a la capacité, les moyens, la logistique qu'il faut pour assurer une bonne prise en charge?
Justement, l'objectif du programme chirurgical du CICR, c'est assurer qu'il y a les services sur place, les services nécessaires pour traiter les blessures par arme, y compris les blessures graves et les blessures complexes. C'est un peu la spécificité du CICR, donc la chirurgie de guerre.
Au même moment que vous soignez les malades, est-ce qu'ils ont un accompagnement psychologique?
Il y a les psychologues qui travaillent ici à l'hôpital, donc les agents psychosociaux qui sont aussi qui travaillent avec nous. Ils travaillent surtout avec les enfants. Donc ils font des sessions avec les enfants, mais aussi quand ils voient les personnes qui ont subi des traumatismes, il y a aussi le soutien psychosocial qu'ils apportent quand ils voient que les gens en ont besoin.
Vous qui vivez cette réalité, la douleur de ces malades, c'est vous qui la vivez, vous la touchez, quel appel vous pouvez lancer en faveur de ces familles déchirées?
Donc tout d'abord, en tant que CICR, nous insistons sur le respect du droit international humanitaire, parce que c'est la loi de la guerre qui est censée protéger les civils, donc toutes les personnes qui ne participent pas aux hostilités. Et donc, on continue notre dialogue avec toutes les parties au conflit, mais on utilise aussi, pour profiter de cet entretien, aussi pour faire un appel public à tous ceux qui participent aux hostilités, que c'est vraiment leur obligation, selon le droit international humanitaire, d'assurer qu'ils prennent toutes les mesures possibles pour éviter les victimes parmi les personnes civiles.
Merci beaucoup, madame.
Merci à vous.
Aliona Sinenko, porte-parole du CICR à Goma, était interrogée par Sifa Maguru. Par ici, nous mettons un terme à ce radio-journal, coordonné par Jude Mister Bilanda et supervisé par Alain Irunga. Dieudonné Nyangasa wa Nyangasa a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal sur www.radiokapi.net. Merci et excellent week-end chez vous.